naissance de Jésus. Et comme pour tout texte prophétique au sujet de Jésus dans l'Ancien Testament, certaines prophéties se sont réalisées pendant la vie de Jésus, lors de sa première venue, tandis que d'autres prophéties vont se réaliser lors de sa deuxième venue, quand il va revenir. Et on a déjà évoqué son retour dans un de ses derniers chants qu'on vient de chanter. Donc je répète ça. Certaines prédictions ou prophéties concernant Jésus se sont réalisées pendant sa première venue, pendant son ministère terrestre, tandis que d'autres vont se réaliser quand il va revenir. J'ai dit que c'est le troisième chant du serviteur parce que nous avons déjà regardé le premier et le deuxième au mois de janvier. Le premier se trouve dans Ésaïe 42, le deuxième dans Ésaïe 49, et ce matin, le troisième se trouve dans Ésaïe 50. Jésus, le serviteur de Dieu. Le serviteur avec un S majuscule. Et je dirais, j'ose dire, sans honte, que normalement, tout chrétien est serviteur de Dieu. Avec un S minuscule. Jésus, le serviteur, les chrétiens, les serviteurs. Donc, je vous lis ce texte, Ésaïe 50, versets 4 à 11. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas rebellé. Je n'ai pas reculé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. Cependant, le Seigneur, l'Éternel, est venu à mon aide. Voilà pourquoi je ne me suis pas laissé atteindre par les insultes. Voilà pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme une pierre, et je sais que je ne serai pas couvert de honte. Celui qui me déclare juste est proche. Qui veut m'accuser? Comparaissons ensemble. Qui se pose à mon droit? Qu'il s'avance vers moi. C'est le Seigneur, l'Éternel, qui viendra à mon aide. Qui me condamnera? Ils tomberont tous en lambeaux comme un habit, dévorés par la teigne. Qui parmi vous craint l'Éternel et écoute son serviteur? Si quelqu'un marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il place sa confiance dans le nom de l'Éternel et s'appuie sur son Dieu. Quant à vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de flèches incendiaires, allez dans la flamme de votre feu et au milieu des flèches que vous avez enflammées. C'est ma main qui vous réserve ce sort. Vous vous coucherez dans la souffrance. Donc un texte prophétique qui parle de Jésus et qui souligne plusieurs aspects de la vie de Jésus. Même si au premier regard on dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose pour nous en 2019? Eh bien, je dirais qu'il y a plein de choses dans ce texte au sujet de Jésus et au sujet de chaque chrétien. La première chose que je veux souligner, c'est que Jésus était toujours prêt à écouter. Toujours prêt à écouter son Père. Il le dit même deux fois. Pardon, prêt à écouter, prêt à parler. Excusez-moi, je perds le fil là. Il était toujours prêt à parler. Il dit, il était prêt à parler comme un disciple. Et quand on lit les évangiles, on voit que parfois, quand Jésus parle, il prononce des paroles qui décoiffent, des paroles qui remettent en question, des paroles qui avertissent solennellement. Mais ici, dans ce texte, il est question de paroles qui soutiennent des gens, des paroles qui apportent un encouragement, une parole de consolation, d'espoir. Et quand on lit les évangiles, on voit que Jésus savait s'adresser à des gens qui étaient fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. Matthieu 11. Pensez à sa tendresse envers ceux qui étaient souffrants dans les évangiles. Les aveugles, les paralysés, les malades, les sourds, les muets, ceux qui avaient faim, ceux qui avaient soif. Jésus a toujours su donner une parole qui rassure, qui encourage, qui console. Pensez à combien de fois il a dit « ne crains pas ». « Ne crains pas, crois seulement. Rassurez-vous, c'est moi. » Jésus était toujours prêt à parler, à annoncer des paroles pour soutenir ceux qui avaient besoin de soutien. J'ai dit, Jésus était toujours prêt à parler. Je vais me contredire, parce qu'à une occasion, Jésus a refusé de parler. Il a refusé de parler à un homme qui attendait longtemps pour le rencontrer. Et Jésus ne lui a rien dit. Cet homme, c'était le roi Hérode, qui voulait que Jésus fasse un miracle, que Jésus fasse une performance devant lui. Et Jésus n'a rien dit à cet homme. Et comme vous savez, parfois, un temps de silence parle plus qu'un long discours. Jésus n'a rien dit à cet homme, mais son silence était en quelque sorte la condamnation de cet homme. Jésus, prêt à parler. Vous, nous, moi, serviteur avec un petit S, est-ce que nous sommes prêts à parler? Est-ce que nous sommes prêts à soutenir, à consoler ceux qui en ont besoin? Est-ce que nous sommes prêts à parler? Je ne dis pas, est-ce que nous sommes prêts à saouler les gens? Vous savez, il y a des gens qui aiment bien parler de Dieu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jusqu'au point que les gens sont saoulés, ils ont mal à la tête, mal au ventre, à force d'écouter. Dieu ne nous demande pas d'impressionner les gens par un débit de parole impressionnant. Jésus nous demande de parler, mais il y a une façon de parler qui plaît au Seigneur. Et nous devons être prêts à parler pour soutenir ceux qui ont besoin. Il est plus facile de parler pour démolir que de parler pour soutenir ou pour construire. Cela nous vient naturellement de démolir. Mais avec l'aide de Dieu, on peut soutenir et construire. Et vous savez, les amis, nous sommes gâtés aujourd'hui parce que nous pouvons soutenir ou parler, entre guillemets, pour encourager quelqu'un avec tous les moyens dont nous disposons. Email, WhatsApp, texto, carte, courrier, tout ce qu'on veut, on peut envoyer quelque chose pour encourager quelqu'un. Même l'apôtre Paul avait besoin d'être encouragé. Dans ses écrits, on lit parfois, « Un tel m'a rafraîchi, un tel m'a consolé, quelqu'un m'a fait du bien. » Alors, je vous lance le défi aujourd'hui. Donnez-vous l'objectif avant de vous coucher ce soir d'envoyer d'une manière ou d'une autre, une parole de consolation, de réconfort, d'encouragement à quelqu'un que vous connaissez qui est dans le besoin. Et si vous ne pensez pas, mais à qui est-ce que je pourrais envoyer une petite parole? Eh bien, je pourrais vous donner des noms. Les anciens pourraient vous donner des noms. Et si vous êtes à bout d'idées, eh bien, envoyez-moi un email pour m'encourager. Parce que j'en ai toujours besoin. Jésus, le Sauveur, le Seigneur, a parlé comme un disciple. Il le dit lui-même. Cherchons à parler comme des disciples. Non pas pour embêter, pour énerver les gens, mais dans ce contexte ici, cherchons à parler pour soutenir, pour réconforter, pour consoler. Jésus était prêt à parler. Verset 4. Et versets 4 et 5, Jésus était prêt à écouter. Savoir parler, savoir écouter, ce n'est pas donné à tout le monde. Jésus était prêt à écouter. Et il dit, le matin, on m'a ouvert l'oreille. Mon oreille était éveillée, réveillée, dès le matin. Il parle du Seigneur l'Éternel. Il parle de son Père. Dès le matin, le Seigneur Jésus était prêt à écouter son Père. Tout au long de la journée, il se mettait à l'écoute de son Père. Et en même temps, de nouveau, quand on lit les évangiles, on voit que Jésus était toujours prêt à écouter ceux qui l'entouraient. Son oreille était attentive aux besoins des gens. Je pense à des questions parfois que les disciples lui posaient. Jésus écoutait les questions. Il écoutait les remarques. Jésus, ses oreilles étaient ouvertes à ceux qui étaient dans le besoin. Marc 10, Bartimée, qui crie, « Fils de David, aie pitié de moi !» Les disciples lui ont dit, « Tais-toi, Jésus est trop occupé. » On dit trop occupé ou dit trop occupé? Voilà, je sais, je connais la réponse à cette question. Jésus était trop occupé pour vous t'écouter. Et Jésus dit, taisez-vous, les disciples. Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Jésus l'a entendu. Et là, on voit un exemple où les disciples étaient prêts à parler, mais ils ont mal parlé. Ils n'étaient pas prêts à écouter. Jésus a écouté, il a entendu Bartimée. Il a entendu dans Matthieu 15 les pleurs de la femme syro-phénicienne qui avait un gros souci à cause de sa fille. Les disciples encore lui ont dit, « Tais-toi, Jésus ne s'intéresse pas à toi, tu n'es qu'une étrangère. » Et Jésus l'a écouté. Et Jésus est intervenu dans sa vie. Quand des parents sont venus avec des enfants, les disciples, qu'est-ce qu'ils ont dit? « Oh là là, vos enfants nous cassent les oreilles. Ils nous cassent les pieds. Partez avec vos enfants !» Jésus a entendu les enfants. Il a dit, « Le royaume de Dieu ressemble à ceux qui deviennent comme un petit enfant. Laissez venir les enfants à moi. » Jésus a écouté les parents et les enfants. Toujours prêt à écouter. Et comme je disais, les disciples là n'étaient pas prêts à écouter. Ils étaient prêts à parler, mais de la mauvaise manière. Nos oreilles, est-ce que nous sommes prêts à écouter le Seigneur? Et est-ce que nous sommes prêts à écouter les autres? Il est écrit ici que même le matin, dès son réveil, il s'est mis à l'écoute. Qu'est-ce que vous écoutez dès votre réveil le matin? Je ne fais pas la pub pour France Info, France Inter, RTL, Europe 1 et tout ce qu'on veut. Oh, je pourrais faire la pub pour Phare FM. Bon, bref. Mais qu'est-ce que vous écoutez le matin? J'espère que vous n'avez pas la même habitude qu'une dame que nous avons connue dans la Sarthe, qui ne pouvait pas sortir du lit sans écouter son horoscope. Il me dit impossible de mettre un pied par terre sans écouter son horoscope. Jusqu'à s'y rendre compte que parfois l'horoscope disait n'importe quoi. Elle a dit parfois. Bon, moi je dis peut-être pas parfois, mais bon, bref. Et puis, elle s'est rendue compte, mais j'ai une Bible dans la maison. Et de fil en aiguille, elle est venue au culte, elle s'est convertie. Et après une lutte, elle a décidé, plus jamais, je n'écouterai mon horoscope. Elle a décidé d'écouter d'autres choses. Mais au lieu d'écouter son horoscope le matin, quand elle s'est réveillée, avant de quitter son lit, nous a-t-elle dit, elle ouvrait la Bible pour écouter ce que Dieu lui disait. Écoutez ce que Dieu dit. Je vais vous montrer quelque chose qui va peut-être parler à ceux qui ont mon âge. La voix de son maître. Ça vous dit quelque chose? Nipper, c'est le nom du chien, un Jack Russell. Nipper, qui écoutait la voix de son maître. Et l'idée était, c'était bien sûr pour acheter des disques et pour écouter, mais ce chien écoutait la voix de son maître grâce à ce gramophone mécanique. Ceux qui ont commencé cette maison de disques avaient une devise. Rapprochez-vous. Rapprochez-vous pour bien écouter la voix de son maître. Alors, il y a des paraboles dans la Bible, mais il y a des paraboles dans la vie. Et je me dis, mais c'est pas mal. Est-ce que le matin, ou à un moment dans la journée, on est prêt à s'asseoir, à tout arrêter, pour se mettre à l'écoute de Dieu? Et quand je dis se mettre à l'écoute de Dieu, je ne veux pas dire chercher à entendre des voix. Mais pour écouter Dieu, la meilleure façon, c'est que ce qu'on entend passe par nos deux yeux. On lit la Bible et on écoute ce que Dieu nous dit. HMV. À cause de l'ère d'Internet, tous les magasins de HMV, c'était la voix de son maître en anglais, tous les magasins ont fermé il y a quelques années, me semble-t-il. En tout cas, parfois Dieu a besoin de prendre un mégaphone pour nous crier à l'oreille, pour qu'on entende. Mais parfois, comme pour Eddie, il nous chuchote à l'oreille. Et ça suffit pour qu'on comprenne ce qu'il veut nous dire. Mais parfois, il doit crier. C'est à nous de nous déboucher les oreilles et de dire, Seigneur, je veux me rapprocher de toi. Je ne veux pas être sourde et aveugle, mais je veux écouter ta voix. On peut dire que ici, Isaïe parle en quelque sorte de culte personnel. Brièvement, je résume le culte personnel de la manière suivante. R plus R plus R égale CP. Il ne s'agit pas d'une formule chimique. J'ai laissé tomber mes études en chimie en cinquième. Mais il s'agit de trois mots qui résument relation, révélation, réponse. Dans mon culte personnel, je dois non pas soigner ma relation, mais passer du temps à penser, mais Seigneur, tu m'as adopté, tu m'as aimé, tu m'as choisi, etc. Tu es mon Père, tu es mon Sauveur, tu es celui qui me fait du bien, tu pourvois mes besoins. Révélation, je passe du temps à lire la parole de Dieu. Et la réponse, je prie pour dire, Seigneur, voilà ce que tu me dis, voilà ce que je te dis, voilà ce que je dois te dire. Jésus, prêt à parler. Jésus, prêt à écouter. Troisièmement, Jésus était prêt à obéir. Ah, ça a bougé. Peu importe. Prêt à obéir, verset 5. Il dit ici, je n'étais pas un rebelle. Je n'étais pas un insoumis. Je n'étais pas révolté. Jésus était toujours prêt à obéir. D'ailleurs, à tel point qu'il dit dans les évangiles, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Prêt à obéir. Il dit même, sans me retirer, sans reculer, sans faire marche arrière. Toujours en avant avec le Seigneur. Un des héros de la Deuxième Guerre mondiale était un Américain qui s'appelait Général Patton. Et Patton avait une devise, toujours avancer, jamais reculer. Pas mal pour un chrétien. Toujours avancer avec Dieu, jamais reculer. On le voit si on lit entre les lignes, ici au verset 5. Jésus voulait avancer. Il ne voulait pas reculer. Une des images dans le Nouveau Testament au sujet du chrétien, c'est l'image du serviteur. Ou de l'esclave. Parce que le mot signifie littéralement esclave. Et ce mot serviteur est un mot clé dans le Nouveau Testament. Il doit être un mot clé dans la vie de chaque chrétien. Parce que si nous sommes des disciples de Jésus, si nous sommes chrétiens, si nous sommes membres de cette église ou de notre église, eh bien, nous devrions être des serviteurs. Personne, aucun serviteur n'est plus grand que son maître. Et Jésus est notre maître et il nous appelle à servir Dieu et à servir les autres et à servir dans notre Église. Servir, service et serviteur, voilà les mots en français et en grec, apparaissent 37 fois, 34 fois, 30 fois. Alors si on fait le total 37 plus 34 plus 30, bon, on a au moins deux profs de maths ici pour me corriger, mais il me semble que ça nous fait 101 fois. Dans le Nouveau Testament, il est question de servir Dieu, d'être serviteur ou de servir les autres. Jésus était le serviteur. Et il nous appelle à servir le Père et être des serviteurs prêts à aider, prêts à faire des choses. Prêt à obéir, Et Jésus était aussi prêt à souffrir. Verset 5. Les prophéties dans ce verset se sont réalisées à la lettre dans les évangiles. Et nous ne devons pas les lire à la légère. Il est question des souffrances physiques que Jésus a acceptées afin que nous soyons pardonnés. Jésus a subi ces choses afin que nous soyons délivrés de la colère de Dieu. Ces versets nous parlent du comment Jésus a souffert. Et dans quelques semaines, nous allons regarder le quatrième chant du serviteur, Ésaïe 53, qui explique à la fois le comment et le pourquoi des souffrances de Jésus sur la croix. Mais encore, Jésus n'a pas reculé devant les souffrances qu'il allait subir pour nous sauver d'une éternité perdue. Prêt à souffrir. Et Jésus est aussi prêt à croire, malgré tout. Prêt à croire. Il était prêt à croire malgré les souffrances qu'il allait endurer. Verset 7. Il était conscient de l'aide de Dieu. Il parle de Dieu qui va venir l'aider. Le Seigneur, l'Éternel. Quatre fois dans ces versets, on a cette phrase, le Seigneur, l'Éternel. Et quand on parle de Dieu comme le Seigneur, l'Éternel, on évoque à la fois la puissance de Dieu et la proximité de Dieu. Et Jésus était conscient que son Père était à la fois le Tout-Puissant, mais qu'il était tout près de lui pour l'aider, pour le soutenir dans ses souffrances. Jésus était déterminé d'aller au bout, jusqu'au bout, parce qu'il nous aimait et parce qu'il savait que son Père était auprès de lui, prêt à croire malgré les souffrances. La question qui s'impose, est-ce que nous sommes prêts à croire malgré ce que nous devons supporter, souffrir? Deuxièmement, Jésus était prêt à croire malgré les accusations, malgré les ennemis et malgré les tensions qu'il devait subir. Il était prêt à croire parce qu'il savait qu'il était innocent, qu'il était pur, qu'il était sans tache, sans péché, que sa conscience était impeccable. Et même si des gens l'accusaient, et il y a eu des fausses accusations, il y a eu du fake news dans les évangiles, lorsque des gens disaient n'importe quoi sur Jésus. Jésus a entendu tout ça. Il n'a rien dit. Il savait que son Père était avec lui. Qui va m'accuser? Qui va essayer de me condamner? Et ces questions que Jésus pose dans Ésaïe 50, on les retrouve dans Romains chapitre 8. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui va accuser les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui va condamner les chrétiens? C'est Dieu qui nous déclare justes. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Est-ce que nous sommes prêts à croire malgré des injustices qu'on subit? Et on en subit des injustices. Mais le Seigneur nous appelle à croire. Et puis Jésus était prêt à croire malgré les ténèbres. Verset 10, verset 11. Jésus a-t-il connu des moments de ténèbres? Je dirais que oui. Dans le jardin de Gethsémané, sur la croix de Golgotha. Ténèbres dans son âme et des ténèbres autour de lui. Mais il était toujours prêt à faire confiance au Seigneur l'Éternel, le Tout-Puissant et celui qui est proche de nous. On peut dire que ces deux derniers versets, versets 10 et 11, constituent un appel aux chrétiens du 21e siècle. Je m'explique. Il peut arriver qu'un chrétien passe par un moment difficile, un moment, on va dire, de ténèbres ou un moment flou. Il ne voit pas trop où mettre le pied. Comment avancer? Est-ce qu'on doit forcer la main de Dieu? Est-ce qu'on doit sauter le pas sans vraiment savoir si Dieu nous pousse? Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? dans les ténèbres, est-ce qu'on doit allumer un feu nous-mêmes? Est-ce qu'on doit chercher une fausse lumière? Est-ce qu'on doit avancer sans avoir Dieu avec nous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, le Seigneur dit ici, si on s'allume, si on allume une fausse lumière ou une lumière artificielle, on risque de souffrir encore plus. Et Jésus emploie deux verbes dans ce texte qui sont tellement, tellement importants. Il nous dit, dans les ténèbres, si quelqu'un manque de lumière, verset 10, qu'il place sa confiance dans le nom de l'Éternel, qu'il s'appuie sur son Dieu. Autrement dit, si nous marchons dans les ténèbres, il nous invite, Dieu nous invite à nous confier en lui et à s'appuyer sur lui. Si on se confie dans le Seigneur, si on s'appuie sur le Seigneur dans des moments de ténèbres, dans des moments flous, on ne sait pas comment faire, eh bien, continuons à nous confier en lui et à nous appuyer sur lui jusqu'à ce qu'il nous dise, voilà ce qu'il faut faire. Quel que soit le domaine dans notre vie où on voit trouble, on voit flou, on voit mal, eh bien, évitons d'allumer une fausse lumière, un fake light, une fausse lumière. Évitons d'imaginer ce que Dieu aimerait qu'on fasse et qu'on fasse. Attendons. Confions-nous dans le Seigneur. Appuyons-nous sur le Seigneur. Quelqu'un nous dit, si vous traversez un désert, continuez à traverser. Ne vous arrêtez surtout pas. Et parfois, dans les ténèbres, nous ne nous arrêtons pas. Continuons à faire confiance au Seigneur. Continuons à nous appuyer sur le Seigneur. Donc, je m'adresse à chacun. Si tu passes par un moment de ténèbres, flou, noir, trouble, confie-toi dans le Seigneur, appuie-toi sur le Seigneur et attends son intervention ou attends qu'il te dise quelle est la prochaine étape. L'attente, c'est compliqué, c'est difficile, mais parfois Dieu nous demande d'attendre et il nous montrera le chemin à suivre. Je conclue en vous parlant de ces deux hommes. Il y a 201 ans, ces deux hommes avec leur femme ont quitté le Pays de Galles. Ils se sont installés sur l'île Maurice en vue d'évangéliser l'île de Madagascar. Et David et son épouse et leur bébé sont partis en décembre 1818 pour faire connaissance avec la langue, les gens, la culture malgache. Malheureusement, sa femme et son bébé sont tombés malades, malaria, et les deux sont décédés. Thomas ne savait pas, parce que l'email n'était pas très efficace dans l'océan Indien il y a 200 ans, donc Thomas ne savait pas que David était malade et que sa femme et son bébé venaient de mourir. Donc Thomas, il arrive avec sa femme et son bébé. Et le 31 janvier 1819, Thomas meurt. Quelques jours auparavant, son bébé est mort. Et trois jours plus tard, sa femme est morte. Donc une équipe de 6 missionnaires, si on compte les deux bébés, et il n'y avait plus qu'un qui vivait après quelques semaines sur l'île. Alors David, il a pu repartir sur l'île Maurice et puis retrouver ses forces. Il a pu revenir et pendant des années, il a évangélisé fidèlement dans la ville de Toamasina. Et à tel point que des années après, les autorités de la ville ont baptisé une rue dans la ville pour honorer le travail de Thomas et de David et de leurs épouses. Même si, comme je disais, l'épouse de David, Thomas et sa femme sont restés quelques jours, mais la municipalité voulait honorer le travail de ces hommes, de leurs épouses. Rue Jones et Bevan à Toamasina, à Madagascar. Pourquoi est-ce que j'ai raconté cette histoire? Eh bien, pas seulement parce que ça s'est passé il y a 200 ans, ces jours-ci, mais aussi parce que ces hommes, avec leurs épouses, ils ont su écouter le Seigneur. Ils ont su parler au nom du Seigneur. Ils ont obéi au Seigneur. Ils étaient prêts à souffrir pour le Seigneur. Et ils étaient toujours prêts à croire. À croire au Seigneur. Malgré la souffrance, malgré le deuil, malgré les morts. Ils étaient prêts à croire. Alors, je me dis que nous, en tant que chrétiens, en tant que vrais disciples, et le mot disciple se trouve dans ce texte deux fois, nous devons chercher ou prier le Seigneur. Seigneur, aide-moi à être prêt à écouter. Aide-moi à être prêt à parler de la bonne manière. Aide-moi à être prêt à obéir. Aide-moi à être prêt à souffrir. Aide-moi à être prêt à croire. À me confier en toi et à m'appuyer sur toi. À tout moment. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous te remercions pour ce texte au sujet de Jésus. Merci car il était toujours prêt à parler, à écouter, à obéir, à croire et à souffrir. Et nous te prions tout simplement que tu nous aides par la présence de ton Esprit Saint pour que nous puissions être prêts à parler, à écouter, à souffrir, à obéir et à croire. Nous te le prions au nom de Jésus et pour que toi seul, tu sois glorifié.